Vous êtes sur RTL.
10h30.
RTL Midi.
Le 12-30 avec Agnès Bonfillon.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. En ce mardi 22 juin, une famille assassinée en 2017 sur fond de rancœur, de jalousie et de rumeurs autour d'un trésor qui n'a jamais existé. Le procès de la tuerie d'Orvault a débuté ce matin. Autre affaire, celle de Valérie Bacos, cette mère de famille comparée depuis hier pour avoir tué son mari, violent et proxénète. Nouveau déluge hier sur la ville de Reims, mais aussi dans la Somme et l'Oise. À Beauvais, une personne est toujours portée disparue. Les Français sont-ils libérés avant le match face au Portugal demain? Avec les résultats des autres groupes, ils sont automatiquement qualifiés, nos Bleus, pour les huitièmes de finale. Et ce, quoi qu'il arrive. Dans ce journal, nous vous parlerons d'une initiative chère à Bombi. Ce sera le coup de cœur de nos correspondants à la fin de ce journal. La météo, bonjour Peggy Broche.
Bonjour Agnès.
Bon, l'été c'est déjà fini?
Mais pas du tout, près de la Méditerranée il fait beau et chaud. Bon, ailleurs je vous l'accorde, c'est vrai, c'est moins le cas. Un temps pluvieux entre la Bretagne et le Hauts-de-France. Retour d'un temps plus sec avec plus d'éclaircies sur la pointe du Finistère. Et partout ailleurs, cet après-midi, des averses orageuses, alors plus nombreuses sur la façade atlantique et le Grand Est. Et côté température, en plus, c'est frais pour la saison, sauf frais de la Méditerranée toujours. 28 à Perpignan, 25 à Toulouse et Lyon, 21 à Nancy, 18 à Paris et 14 à Cherbourg.
La question du jour, présidentielle 2022, le duel annoncé, Le Pen-Macron a-t-il du plomb dans l'aile? Vous dites oui à 50%, non à 40%. On attend vos appels évidemment au 32-10. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Agnès, c'est assez équilibré pour le moment. On pourra revenir sur les 25 interpellations hier soir lors de la fête de la musique à Paris. Est-ce à dire que pour vous ou pour les jeunes, l'épidémie est terminée? Donc appelez-nous. L'UEFA refuse le projet de la ville de Munich d'illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT. Et une action qui était souhaitée pour le match Allemagne-Hongrie ce soir pour protester contre une loi jugée discriminatoire, récemment votée en Hongrie. Ben là aussi, vous pourrez nous parler de sport et politique. Et puis, un cadre sur quatre reconnaît avoir des relations intimes pendant les horaires de travail, mais en télétravail, pas lorsqu'il est à l'entreprise. Un cadre sur quatre. Eh bien, est-ce que vous êtes concerné par cela?
On doit répondre?
Bah, nous, on n'est pas en télétravail, donc si vous voulez, ça, on est dans l'entreprise.
À tout à l'heure.
Donc, à tout à l'heure. Hâte.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Il est accusé d'avoir tué quatre membres d'une même famille il y a 4 ans. Le père, la mère et les 2 enfants près de Nantes, la famille Troidec. Le procès d'Hubert Caouissin s'est ouvert ce matin devant les assises de Loire-Atlantique. Pendant 3 semaines, ce beau-frère, cet oncle qui aurait commis l'impensable pour un trésor, va être au centre des débats, Anne Le Hénaff.
Oui, il n'a prononcé que quelques mots dans son box, les mains dans le dos en polo bleu marine de yachting, le crâne dégarni. Vous acceptez de répondre à la cour? Oui. Vous reconnaissez avoir délibérément donné la mort à Sébastien, Charlotte, Pascal et Brigitte Troadec? Non. Hubert Caouissin maintient donc qu'il n'est pas venu exprès pour les tuer à cause d'une sombre histoire de pièces d'or, prétendument trouvées par le grand-père et qui auraient été volées par Pascal Troadec. L'accusé devra, dans les prochains jours, expliquer son geste, qu'il est difficile de ne pas qualifier d'écœurant. La présidente, très pédagogue, a rappelé les faits pour les jurés, d'une voix douce. Elle raconte les coups de pied de biche qui fracassent les 4 crânes et la façon méthodique. Donc Caouissin a ensuite dépecé les corps avec un couteau de cuisine pour brûler les os dans sa chaudière. Comment il a éparpillé les viscères et les muscles dans son champ. 379 morceaux retrouvés dans les ronces et les fougères. Dans la salle, les 2 sœurs de Brigitte Troadec ont du mal à retenir leurs larmes. Elles ne quittent pas le box du regard. La présidente a prévenu, il y aura des moments compliqués et douloureux au cours de ces 3 semaines d'audience.
Anne Le Hénaff, en direct des Assises de Loire-Atlantique pour RTL. Deuxième jour du procès de Valérie Bacos. Depuis hier, cette mère de famille de 40 ans est jugée devant les Assises de Saône-et-Loire pour avoir tué son mari, violent et proxénète. Aujourd'hui, ce sont les 2 aînés qui racontent le calvaire familial, Frédéric Perruche.
Très ému à la barre, les premiers mots de Kevin Paulette, 21 ans aujourd'hui, 16 à l'époque des faits, sont pour sa mère, assise, prostrée, juste derrière lui. Elle a souffert des années, elle n'est pas coupable, elle n'avait aucune aide. Le grand jeune homme détaille ensuite le quotidien de la famille. Mon père, il était violent avec nous, les enfants, les garçons. Il tapait, donnait des calottes, nous jetait à la figure tout ce qu'il avait sous la main quand il avait bu tous les jours. Avec ma mère, c'était pire. On n'y assistait pas, mais on entendait les cris. Souvent, elle pleurait. On l'a même vue boiter. Parfois, elle avait le visage en sang, rajoute Dylan, le frère aîné. Pourquoi ne pas avoir fui, demande l'avocat général, ou alerter les gendarmes? On était piégés, on n'avait pas d'argent, on avait peur, il avait des armes. Il était violent, il nous aurait retrouvés. Même après l'avoir enterré en forêt, en pleine nuit, on avait peur qu'il revienne, qu'il se relève, qu'il nous tue. La mort de l'autre, on ne l'appelait pas papa, nous a soudés, précise Dylan. Il nous manque pas, j'en veux pas à maman, conclut Kevin.
Compte rendu d'audience signé Frédéric Perruche pour RTL. Une nouvelle requête en révision pour Omar Radad. RTL vous le révélait hein, ce matin, condamné en 1994 pour le meurtre de Ghislaine Marchal à Mougins. Le jardinier marocain espère enfin être innocenté grâce à de nouvelles traces ADN retrouvées sur la scène de crime. Maître Sylvie Noakovic et son avocate, elles fondent beaucoup d'espoir sur ce recours.
Il y a 4 ADN et non plus 2 ADN qui ont été retrouvés mélangés au sang de la victime. L'un des ADN déjà a matché avec le fichier national des empreintes génétiques, mais surtout un nom est sorti. Et ce nom peut être retrouvé grâce à une recherche en parentèle, parce qu'en fait une expertise a été faite le concernant, a priori, et ce ne serait pas lui, mais ça peut être un parent à lui. C'est la raison pour laquelle il faut pousser plus loin. L'affaire est actuellement en cours devant le parquet de Nice.
Maître Sylvie Noakovic, qui était l'invité d'Yves Calvi sur RTL ce matin. Des patrons français mis en examen pour complicité d'actes de torture. 4 dirigeants sont poursuivis par le tribunal judiciaire de Paris pour des faits qui ont eu lieu en Libye et en Égypte. Concrètement, Émilie Beaujard, on leur reproche d'avoir vendu du matériel à des régimes autoritaires.
Et oui, tout commence en 2011, en plein printemps arabe. La société française Amesis est accusée de vendre au régime libyen de Kadhafi un système sophistiqué de surveillance des communications et donc des opposants. Clémence Bechtart est l'avocate de la Fédération internationale des droits de l'homme et de plusieurs victimes libyennes.
On représente 6 parties civiles qui ont raconté les conditions dans lesquelles ils avaient été arrêtés puis ensuite torturés par les services de sécurité libyens suite à des surveillances dont ils avaient fait l'objet et notamment des surveillances de leurs communications électroniques.
En octobre 2011, la FIDH porte donc plainte pour complicité d'actes de torture. Entre-temps, la société Amesis a changé de nom et a passé un même type de contrat, cette fois avec le régime égyptien d'Al-Sisi. Là aussi, il s'agit de surveiller les opposants politiques. Après 10 ans d'enquête, cette mise en examen aujourd'hui de 4 dirigeants est un signal fort envoyé aux entreprises du monde entier, estime Clémence Bechtart.
C'est la question de la responsabilité de ces entreprises qui se posent et qui ont continué leur commerce en toute impunité. Et on espère que ces mises en examen, elles pourront donner lieu à un procès.
Et selon la FIDH, l'information judiciaire concerne aussi la vente de matériel à l'Arabie Saoudite.
Merci Émilie Beaujard du service étranger de RTL. Une pause et dans un instant, tout va très bien Madame la Marquise. L'exécutif ne fait aucun commentaire sur les résultats des élections de dimanche.
RTL Midi
avec Agnès Bonfillon.
Dans moins de 6 heures maintenant, le dépôt des listes pour le second tour des régionales et départementales sera clos. Encore quelques heures de tractation. Après le retrait de la liste de l'écologiste Jean-Laurent Félizia en Provence-Alpes-Côte d'Azur, le candidat LR Renaud Muselier promet que la gauche pourra déposer des motions et s'exprimer dans l'hémicycle en cas de victoire. Le Rassemblement national a fait moins que prévu, on en parlait dès hier. Les candidats d'En Marche ont enregistré une sévère déconvenue. Est-ce que cela doit être considéré comme un éclairage pour la suite? C'est la question du jour sur RTL. Pascal Praud, présidentielle 2022, le duel annoncé Le Pen-Macron a-t-il du plomb dans l'aile?
Manifestement, les électeurs de droite n'ont pas en Emmanuel Macron l'homme qu'ils souhaiteraient avoir. Et sans doute pas non plus en Marine Le Pen. Les électeurs de gauche non plus. Ils n'ont pas un représentant en finale qui les représente. Et maintenant, on apprend que les électeurs du Rassemblement national ne sont pas non plus contents de leur représentant, en l'occurrence Marine Le Pen. Donc ça commence à faire beaucoup. Si tous les électorats de droite, de gauche et Rassemblement National n'aiment pas celui qui arrivera en finale, on peut imaginer que ces deux-là ne soient pas en finale. Mais qui à droite? Xavier Bertrand? Qui à gauche? Et qui pour remplacer Marine Le Pen? Certains disent Éric Zemmour, Robert Ménard, Marion Maréchal. Ça va quand même être difficile de remplacer ces deux-là qui sont pour le moment dans les sondages bien installés.
Un échec cuisant pour les candidats de La République En Marche, ça c'est sûr, mais un échec qui ne semble pas atteindre l'exécutif. Pour l'instant, Vincent Derosier, zéro commentaire sur ces résultats. Silence radio.
Oui, l'exécutif s'envoie après cette baffe électorale et pourtant, Emmanuel Macron ne se cache pas. Hier, il a continué sa vie comme si de rien n'était. Il a fait la fête de la musique depuis l'Elysée avec Jean-Michel Jarre. Il a été photographié avec la star internationale Justin Bieber. Il avait même reçu les représentants des boîtes de nuit le matin. Mais le président ne commande pas les élections régionales pour l'instant. Pour l'analyse officielle au sommet de l'État, c'est Jean Castex qui fait le boulot ce matin devant les députés. Le Premier ministre a même relativisé la déroute d'En Marche. Étant donné l'abstention record, quoi qu'il en soit, le président, lui, n'a pas envie d'être interpellé sur le sujet dans l'entre-deux-tours. Emmanuel Macron fait même une pause cette semaine dans son tour de France des territoires. Le président avait dit qu'il ne tirerait, c'est vrai, aucun enseignement national de ce scrutin. Mais avec la raclée dans les urnes, ils sont nombreux dans la majorité à attendre un signe, une réaction du président. Et selon nos infos, ce silence ne durera pas. Le sujet des régionales sera à l'ordre du jour du Conseil des ministres demain. Et Emmanuel Macron fera passer quelques messages, au moins pour appeler les Français à aller voter.
Vincent Derosier du service politique de RTL. Une personne est toujours portée disparue après les violents orages qui ont touché la Somme et l'Oise hier. D'importants moyens de recherche sont déployés à Beauvais pour la retrouver. Sinamir, vous êtes sur place pour RTL. Ce sont des témoins qui l'ont vu chuter hier.
Témoignage oui, confirmé ce midi par l'appel d'un proche au centre de secours. Les plongeurs du SDIS-60 parcourent donc toujours en ce moment les rives du terrain, cette rivière de Beauvais, à la recherche d'un jeune homme de 18 ans. Le niveau de l'eau n'a eu de cesse de monter dans la nuit. Depuis cet important orage, le fond est trouble. C'est donc à l'aide de drones pour retrouver la trace thermique de ce jeune homme que les plongeurs opèrent désormais. Luc Corac est le directeur des pompiers du département.
Ils ont cherché toute la nuit sans résultat. On pense qu'il a dû être emporté par le courant. C'est pour cette raison que, après avoir parcouru un peu plus de 2 km en fouillant les berges et la profondeur de la rivière Le Terrain, eh bien là nous poursuivons jusqu'à une retenue d'eau et donc de vérifier que le malheureux n'est pas bloqué au fond de l'eau.
Après cette disparition et cet orage, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, vient d'arriver il y a quelques minutes en mairie. Il évoque des dégâts importants et va désormais échanger avec des commerçants sinistrés dans le centre-ville. La maire de Beauvais, Caroline Cailleux, s'est elle d'ores et déjà entretenue ce matin avec le Premier ministre par téléphone. Elle espère et attend désormais la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.
Sinamir, l'envoyé spécial de RTL à Beauvais. La ville de Reims a également subi de graves inondations pour la troisième fois en deux semaines. Doit-on être inquiet après les débordements observés hier soir lors de la fête de la musique? Des gens serrés, sans masque, à l'extérieur certes, mais quand même, sachant que le nombre de personnes qui se font vacciner est en baisse, risque-t-on un effet boomerang? Avec nous l'épidémiologiste Antoine Flao, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le directeur de l'Institut de Santé Globale et professeur à la Faculté de médecine de Genève. Alors professeur, avez-vous l'impression que les gestes barrières ont été très vite oubliés?
Mais c'est un peu ce qu'on demande aux Français, et je dirais presque à tous les Européens, d'oublier un peu leurs gestes barrières pendant l'été. Il y a un répit très clair de vis-à-vis de la situation épidémiologique. Et maintenant, le relais est à prendre par les autorités de santé. C'est aux autorités de santé de faire le travail qu'on ne pouvait pas demander de faire lorsqu'il y avait 10, 15 000 cas par jour. On ne pouvait pas retracer toutes les chaînes de contamination. On ne pouvait pas les démanteler. On ne pouvait pas séquencer suffisamment. Maintenant, les autorités de santé ont un boulevard pour empêcher que ne remonte l'incidence, que les variants Delta ou autres envahissent le pays. C'est vraiment aux autorités de santé de faire le travail.
Et êtes-vous inquiet justement sur le nombre de primo-vaccinés, hein, de moins en moins nombreux? On a l'impression que la campagne marque un peu le pas.
Alors, il y a 47,8% des Français qui ont reçu au moins une dose. C'est déjà pas mal, d'autant plus que je prends toute la population française, c'est-à-dire que parmi les adultes qui peuvent recevoir des vaccins, ça fait une grande proportion. Un peu dans tous les pays du monde où la vaccination est dynamique et accessible, ce qui n'est pas le cas partout malheureusement. On pourra reparler de l'Afrique si vous le voulez, mais dans tous les pays où on vaccine beaucoup, on atteint un plafond autour des 60-70% et parfois 80% de certaines classes d'âge. Et c'est préoccupant en effet parce que 20% de personnes de plus de 75 ans qui ne sont pas vaccinées en France, c'est un très gros problème. Vous savez, une vague épidémique, c'est 5% de toute la population. Et dans les vagues passées. Donc il y a tout à fait la possibilité qu'il y ait une nouvelle vague un jour et qu'elle concerne encore des personnes âgées ou des personnes à risque. Et donc oui, c'est vraiment préoccupant. Il faut absolument que toute la population se vaccine. C'est à la fois un geste pour se protéger, même si on se sent pas très à risque, avoir un Covid long, c'est vraiment pas quelque chose qu'on peut recommander à son plus proche ami ou à son proche voisin. En revanche, ça sert aussi la collectivité tout entière de se faire vacciner en ce moment.
Et quitte à rendre obligatoire la vaccination, vous, professeur, vous en pensez quoi ?
La notion d'obligation vaccinale, c'est pas une notion scientifique. Donc, un professeur d'épidémiologie n'a pas tellement à se prononcer sur ce point-là. C'est un problème politique. Si l'obligation vaccinale permet d'avoir une plus grande vaccination, couverture vaccinale, c'est très bien. Rappelez-vous juste que le vaccin contre la rougeole n'était pas obligatoire, je crois, jusqu'en 2018 en France. Et la couverture vaccinale était quand même de plus de 90%. On est capable, en France, de se vacciner, même si la vaccination n'est pas obligatoire, à partir du moment où on est convaincu, à partir du moment où les médecins sont convaincus et arrivent à convaincre leurs patients, c'est clair qu'aujourd'hui, il faut se vacciner. Alors après, ce qui peut se discuter, y compris d'un point de vue scientifique et épidémiologique, c'est le fait que des soignants ou des personnes en charge de personnes âgées ne sont pas vaccinées, parce qu'ils mettent là en péril et mettre à haut risque les patients dont ils s'occupent ou les personnes âgées dont ils s'occupent. Donc peut-être dans des corps professionnels où on a des habitudes d'obligation vaccinale, comme contre l'hépatite B par exemple, on pourrait imaginer en effet avoir une obligation vaccinale.
Merci infiniment d'avoir été avec nous, Antoine Flaveau, épidémiologiste évidemment, directeur de l'Institut de Santé Globale et professeur à la Faculté de médecine de Genève. Merci. On fait une pause et dans un instant, les Bleus qualifiés pour les huitièmes de finale de l'Euro, sans avoir eu besoin de jouer, s'il vous plaît.
RTL Midi.
Avec Agnès Bonfillon.
On l'a fait sans vraiment le faire. La France est qualifiée pour les huitièmes de finale de l'Euro. Pourtant, elle n'a pas encore joué son troisième match de la compétition. Ce sera demain face au Portugal. Justement, Nicolas Georgerot, vous qui êtes l'un de nos envoyés spéciaux à Budapest, puisque l'on est sûr d'être au prochain tour, est-ce que l'on aborde cette rencontre de façon plus légère ?
Alors, c'est une première étape de franchie, c'est certain, mais ce n'est pas l'idée que va vouloir diffuser l'encadrement des Bleus en interne et en externe. Plutôt garder le groupe sous pression, battre le Portugal pour conserver cette première place qui offrirait aux Bleus un adversaire moins relevé en huitième de finale, la Suisse ou l'Ukraine. Pas de calcul à faire donc, selon le défenseur Lucas Digne.
C'est encore bien flou là où on peut jouer, contre qui on peut tomber. Donc non, on s'est pas encore projeté. Après, le plus important, c'est de très bien finir et on va essayer d'aller chercher cette première place et c'est tout ce qui nous importe.
Premier, une constante d'ailleurs sous Deschamps depuis la Coupe du Monde 2014. Le cap, la feuille de route fixée par le staff devrait avoir un prolongement dans la composition demain soir, là où le sélectionneur a modifié la moitié de l'équipe pour le dernier match de poule lors des trois dernières compétitions. Eh bien, les changements devraient être à la marge, 2-3, peut-être pas de rotation excessive. Et même si les champions du monde ne voudront pas s'appuyer sur ce paramètre, il existera bel et bien. Les Bleus vont jouer en dernier, vont clore la phase de groupe. Ils auront donc toutes les cartes en main pour connaître les risques, les avantages d'affronter tel ou tel adversaire au prochain tour.
Nicolas Georgerot, envoyé spécial de RTL à Budapest. La ville de Munich souhaitait illuminer son stade aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT lors du match Allemagne-Hongrie demain. L'UEFA refuse catégoriquement, estimant être une organisation politiquement et religieusement neutre. Dérogation spéciale pour la finale du top 14 de rugby vendredi soir entre La Rochelle et Toulouse. La jauge du Stade de France sera portée de 5 000 à 14 000 spectateurs.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Un drone pour la bonne cause, c'est notre coup de cœur du jour. La Fédération de chasse du territoire de Belfort a investi 21 000 euros pour acheter un engin volant. Et depuis un mois, cette machine permet de traquer les fans, les bombies si vous préférez, qui se trouvent dans les champs prêts à être moissonnés. L'objectif est simple, les faire fuir avant le passage des lames des engins agricoles pour les épargner d'une mort certaine. Et Dimitri Ramelot, ça fonctionne.
Première lueur du jour sur cette parcelle d'un hectare d'orge dans la campagne franc-comtoise. Le quadrirotor de 7 kg s'arrache du sol pour atteindre 42 mètres de hauteur en 5 secondes. Jérôme Demeleu-Mester, technicien à la Fédération départementale de la chasse, commence son inspection.
On va régler la caméra thermique en direction du sol. On voit que le sol est bien violet. Hein. On cherche tout ce qui est point jaune. Là, on en voit un petit sur l'écran. Donc, on peut supposer qu'il y a un animal.
Passage en caméra normale, zoom. Les herbes sont trop hautes. Alors, une équipe de 3 releveurs part dans le champ au contact, guidée par Talkie Walkie.
C'est pas très loin.
Ok, on avance.
Encore 10-15 mètres à peu près.
L'écran, c'est gros comme un chevreuil ou comme un ragondin, par
exemple ? C'est vraiment pas gros.
Hop, ça part.
C'est deux fans.
Ok.
Il est parti, là. C'est bon.
On arrive.
On cherchait des fans. Ils étaient bien là, les deux. Voilà, c'est posé, on est bon, on va changer de parcelle.
Et parmi les agriculteurs qui ont fait appel à la Fédération de chasse pour sauver les fans, André Vrugler, en culture 100% bio.
On arrive avec les faucheuses, ça fait du bruit, mais ils ne se sauvent pas parce qu'ils sont trop jeunes. Le réflexe, c'est de se terrer. Et puis après, en le fauchant, on ne le voit pas. Et quand on vient pour retourner le foin, ben on trouve un cadavre, donc ça fait quand même mal au cœur.
Et avec le passage des engins agricoles, immédiatement après l'intervention du drone, 9 fans ont été sauvés en 8 opérations d'inspection.
Le coup de cœur de Dimitri Ramelot pour RTL. À Strasbourg, un conseil municipal au diapason. Hier, pour la fête de la musique, les élus se sont transformés en choristes. C'est le chef de chœur du conservatoire de la ville qui est venu diriger tout ce petit monde. Et le résultat, écoutez, n'est pas si mal que ça. Ils chantent pas mal, hein, les élus du conseil municipal de Strasbourg, Pascal Pro.
Ah oui.
Ça change de la cacophonie politique habituelle.
D'accord.
C'est facile.
Je me demande s'ils ne devraient même pas que chanter.
Vous avez retenu autre chose de ce journal,
oui,
Pascal?
Oui, il y a quelque chose qui m'a étonné, c'est que l'UEFA se présente toujours comme une organisation neutre sur le plan politique. Et on peut considérer qu'à ce titre-là, elle refuse l'action qui avait imaginé illuminer le stade de Munich aux couleurs arc-en-ciel de la communauté LGBT. Mais dans le même temps, elle tolère le genou à terre, donc qui est un signe politique. Donc, si j'ai bien compris, l'UEFA veut bien lutter contre le racisme, mais pas contre les discriminations LGBT. Donc, c'est assez intéressant de faire réagir nos auditeurs sur ce sujet.
La météo, Peggy Broche, décidément, qu'est-ce qu'il est sympa ce mois de novembre?
Vous avez vu ça? Mais c'est vrai que c'est assez maussade, hein, j'avoue, aujourd'hui. Et instable entre la Bretagne, la Normandie, l'Île-de-France, les Hauts-de-France, ça reste nuageux et pluvieux avec du vent sur les côtes de la Manche. La pointe du Finistère va retrouver un temps plus sec et plus lumineux. Et sur les trois quarts du pays du sud-ouest aux frontières de l'Est, des averses ponctuées d'un coup de tonnerre, des averses plus nombreuses vers la façade atlantique et le Grand Est. Il n'y a que près de la Méditerranée, le sud du Massif central et les Alpes que le soleil sera vraiment au rendez-vous. Tout ça sous des températures fraîches pour la saison, sauf près de la Méditerranée et la Corse. 29 à Bastia, 28 à Marseille, 27 à Grenoble, 22 à Bordeaux et Dijon, 21 à Tarbes, 20 au Mans et à Reims, 18 à Paris, 15 à Caen et pour demain, à nouveau, des orages du sud-ouest aux frontières de l'Est l'après-midi, un temps plus sec sur le nord-ouest et toujours beau près de la Méditerranée.
Merci Peggy. Dans 2 minutes, très exactement, il sera 13h sur RTL. RTL.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Les débordements parfois des interpellations hier soir et des forces de l'ordre lors de la fête de la musique. Nous sommes avec Victoire, bonjour, qui a 19 ans, qui habite à Aix-en-Provence. Vous êtes étudiante, ça s'est bien passé hier soir?
Oui, très bien, c'était super.
Bon, il n'y a pas eu de souci, donc les forces de l'ordre ne sont pas intervenues.
Ils nous regardaient faire, surtout.
Bon, bah écoutez, c'est une bonne chose. Le rappel des titres avec Agnès.
L'affaire Troidec devant les assises de Loire-Atlantique depuis ce matin, dans le box des accusés, Hubert Caouissin, le beau-frère, accusé d'avoir tué les 4 membres d'une même famille en 2017. Autre affaire, autre procès. Il y a 2 ans, souvenez-vous, une petite fille s'était gravement intoxiquée avec du détergent dans un restaurant de Pornic. Le propriétaire de l'établissement est jugé depuis ce matin à Saint-Nazaire pour blessures involontaires et mise en danger d'autrui. La victime, âgée aujourd'hui de 4 ans, a subi des séquelles irréversibles submersible sur son œsophage. Les recherches continuent à Beauvais pour tenter de retrouver un jeune homme de 18 ans. Il a disparu lors des violents orages qui se sont abattus sur la ville hier. D'importants moyens sont déployés. Dans moins de 5 heures, le dépôt des listes pour le second tour des régionales et départementales sera terminé. Dernière ligne droite et ultime tractation en Provence-Alpes-Côte d'Azur après le retrait de la liste de l'écologiste Jean-Laurent Felitia. Renaud Muselier promet à la gauche une place plus importante en cas de victoire face au Rassemblement National, bien sûr.
Merci Agnès et à demain.
Les auditeurs ont la parole.